On a pu lire les récits de notre prochain invité dans les pages de la presse pendant une vingtaine d'années dans le cadre de ses fonctions. Elle a couvert des conflits armés, des révolutions, des désastres naturels. Et dans son nouveau livre, Partir pour raconter, Michèle Ouimet nous amène dans les coulisses du rôle de reporter de guerre. Elle est avec nous en studio. Bonjour, Madame Ouimet.
Bonjour.
Bonjour.
Dès les premières pages, on a l'impression que vous vous sentez libérée du carcan du journal. Il n'y a plus d'heures de tomber, il n'y a plus de nombre de feuillets à respecter. Est-ce que ça a quand même été agréable de rédiger cet ouvrage-là, même si les souvenirs étaient parfois douloureux?
Oui, absolument. C'est complètement un autre rythme. Là. Alors, c'est, le deadline, là, c'est vraiment une pression énorme et la longueur aussi de l'article et la vérification maniaque là, de tout. Alors ouais. Là-dedans, j'avais quand même une certaine liberté. Non seulement j'avais du temps, non seulement j'avais de l'espace, mais aussi raconter. Là. C'est pas bon un tel, est-ce que son nom s'écrit avec deux N ou un N. Mm-hmm. Donc, il y a une part aussi où j'ai voulu aller au-delà du reportage pour raconter un peu comment ça se fait.
Parce que c'est votre expérience que vous racontez, vos expériences que vous racontez, non pas ce que les gens vous racontent. Donc, il y a ça aussi qui est particulier.
Oui, c'est ça. C'est un mélange des deux. J'ai voulu aussi expliquer un peu pourquoi j'étais partie et aussi... En fait, c'est que le reportage international, quand on regarde dans le journal, tout est beau, tout est lisse, mais ce qu'il y a en arrière de ça, il y a beaucoup de chaos. Et ça, je voulais qu'on comprenne un peu, dans le fond, qu'on est moins organisé que les gens pensent, qu'il faut beaucoup improviser parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver sur le terrain. Le stress aussi, la pression qu'on a, parce que je travaille quand même pour un quotidien, donc ça aussi, je voulais le communiquer.
Et toujours penser aussi à sa sécurité, parce que quand on est dans des endroits comme ceux-là, il veut pas, ça doit toujours être quelque chose qu'on doit avoir en arrière de la tête.
Oui, hein? La sécurité puis les déplacements. Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux aller dans le sud? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il va y avoir des bombardements? Là, je parlais aux autres journalistes souvent qui me disaient, ah, tu étais là, puis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut le coup? Je parlais aussi à mes fixeurs, qui sont des traducteurs, souvent des journalistes locaux, au Liban, des Libanais, c'est leur pays. Donc, on prenait les décisions ensemble. Mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de choses à penser. Et aussi, où je vais manger, où je vais dormir, comment je vais transmettre. Il fallait trouver une connexion Internet potable, là, pas entre chaque clic, avoir le temps de se faire cuire un œuf. Là, c'est long.
Les premiers chapitres nous amènent un peu à vos débuts à la presse. Puis même un peu avant, j'ai appris que vous aviez vécu à Bamako.
Oui, pendant 2 ans.
À quel point ça vous a préparé à votre vie de journaliste, ce séjour-là de 2 ans au Mali?
Ben, ça a été la rencontre. J'étais, je pense, pratiquement jamais sortie du Québec. Donc, je suis arrivée en Afrique noire à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone. Je pense que j'ai fait un téléphone en 2 ans à mes parents. Donc, oui, ça m'a préparée. Et je me suis rendue compte aussi que j'étais bien dans un milieu qui était autre, qui était complètement différent, que j'étais à l'aise, que j'aimais ça, que je voulais voir ce qui se passait ailleurs. Donc oui, ça m'a préparé et en même temps, ça m'a confronté à une culture complètement différente. Là.
Pour couvrir des conflits armés comme ça, quand on arrive là, les premières fois, est-ce que ça prend une certaine dose d'inconscience pour se rendre sur le terrain?
Complètement. En tout cas, dans mon cas, c'était plus que de l'inconscience parce que j'étais mal organisée. J'ai pas compris que les gens travaillaient avec des fixeurs. J'ai été dans des endroits vraiment, le génocide au Rwanda, il y a beaucoup de choses à voir. C'est comment tu fais pour rentrer dans le pays, comment tu t'organises, parce que à Kigali, l'aéroport, la capitale du Rwanda, était fermée. Le seul accès au pays, c'était par l'Ouganda, mais c'était difficile parce que c'était la guerre. Donc, j'ai voyagé avec la Croix-Rouge, après ça, avec une des deux armées, les Tutsis, dans ce cas-là. En Afghanistan aussi, ça a été compliqué. Donc, oui, ça prend de l'inconscience pour se jeter tête baissée. Hey, je vais y aller, moi, en Afghanistan, sous les talibans, là. Juste rentrer dans le pays, là aussi.
Ouais.
Impossible d'atterrir à Kaboul. Il a fallu que je passe par le pays voisin, le Pakistan. Tout ça, c'est un peu improvisé. Là.
C'est ça, il n'y a pas de cours de débrouillardise non plus. Là.
Non,
on le
débrouillardise
fait à mesure.
Sans un, ça n'existe pas.
Exact.
T'as intérêt à t'arranger pas te débrouiller quand t'arrives.
Vous évoquez le Rwanda, ces passages-là m'ont particulièrement troublé. Puis j'étais dans mon condo au chaud chez nous. Là. Je me demandais, vous, quand vous êtes sur le terrain dans des conflits qui sont violents, qui sont durs comme ceux-là, comment vous faites pour vous coucher le soir puis recommencer le lendemain, le surlendemain, le sur-surlendemain?
Les somnifères. Non, mais c'est que quand tu es dedans, tu vois pas, t'es tellement prise par le deadline, la pression, il faut que tu écrives, il faut que tu fasses ci, il faut que tu te déplaces. Ta tête est complètement prise par la logistique. Et le Rwanda, ça a été particulièrement difficile aussi parce que le pays était dans un état, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des cadavres partout, il y avait des alertes au choléra, c'était très compliqué de se déplacer. Donc, tu es très concentré, mais à l'époque du Rwanda, je n'avais pas encore découvert les vertus des somnifères. Hein? Alors, j'ai passé quelques nuits blanches à me faire dévorer par les moustiques. Donc, plus ça allait, plus j'étais... Tu t'affaiblis vite hein, dans ce cas-là.
C'est clair.
Il n'y avait pas grand-chose à boire, pas grand-chose à manger, beaucoup d'horreur. Donc, ça a été difficile.
Quand on revient au pays, là, je pense toujours à la scène... Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Démineur de Hurt Locker.
Oui.
Le soldat qui revient au pays...
Il se retrouve devant toutes les céréales.
Exact. Et là, il se dit, mais à quel point ma routine est insignifiante après avoir vécu des événements comme ceux-là. Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir ça?
Non, moi, c'est le contraire. Contente, reconnaissante d'être au Québec, de vivre dans un pays au chaud, avec toutes ses facilités, contente de retrouver mes proches, contente de retrouver mon confort. Donc, contente de renouer avec ma routine, mais avec un besoin impérieux de repartir.
Est-ce qu'on se sent quand même coupable d'avoir tout ça?
Tout le temps. On se sent tout le temps coupable parce qu'on a abandonné des gens, on les a laissés. Quand on voit des familles dans les camps de réfugiés qui nous demandent avec beaucoup de dignité, pourriez-vous m'aider? J'aimerais aller au Canada. Ben, il faut leur dire non, c'est pas possible. Mm-hmm. C'est sûr, j'aurais aimé embarquer ces familles-là sur mon dos puis les amener. Mais ce que je leur répondais tout le temps, non, je ne peux pas, mais ce que je peux faire, par contre, c'est raconter votre histoire.
Ouais.
Alors donc, raconter justement pour que ces gens-là, les drames qu'ils vivent, sortent de l'ombre. Mais oui, on se sent coupable. On se sent coupable parce qu'il y a beaucoup de misère. Mais c'est à cause de l'homme, de sa folie, les maisons bombardées, les enfants dans des camps là qui sont malades, les hommes qui souffrent de dépression. C'est pas. Mais en même temps, il y a beaucoup d'actes de résilience, d'entraide. Donc, tu as le pire de l'homme, mais tu as le meilleur de l'homme aussi.
Faut trouver les faisceaux de lumière malgré tout là-dedans. Là. Puis vous évoquez aussi le fait que bien, c'est une idée préconçue que j'avais. Je me disais, à force de côtoyer la misère comme ça, on finit par développer une carapace. Puis ce que vous dites dans le livre, c'est que ça a été plutôt l'inverse. Votre carapace a commencé à se fissurer au fil du temps.
Mais naïvement, moi, j'étais convaincue qu'un reporter de guerre, je me suis jamais considérée comme un reporter de guerre, mais bon, les journalistes qui allaient sur ces terrains-là finissaient par s'endurcir à force de voir des choses. Mais j'ai été étonnée de voir que c'est le contraire, que je devenais dans le fond de plus en plus fragile, que toute cette misère-là me rentrait dedans, là, vraiment, de plus en plus. Mais donc, il y a eu un peu, comment je pourrais dire, un désarroi. Puis qui s'est muet tranquillement pas vite, surtout avec la Syrie, dans une espèce de colère. T'sais. Comment ça que l'homme apprend pas de sa bêtise? Pourquoi tuer autant de gens pour un bout de territoire? Je regardais, en Syrie, il y a que des méchants. Il y avait Bachar el-Assad qui massacrait sa population et les djihadistes qui étaient pas mieux, dans le fond, que Bachar el-Assad.
C'était les civils qui se ramassent en plein milieu et subissent.
Exactement. Et puis ça a été une guerre vraiment sale.
Vous parliez que c'était déchirant parfois quand vous quittiez. Vous pouviez au moins raconter l'histoire de ces gens-là, mais ça devait être également déchirant quand vous quittiez ici le pays, laisser vos proches pour aller dans une situation qui pouvait être périlleuse pour vous.
Oui, puis aussi laisser mes proches, ma fille, mon chum, en sachant qu'ils étaient très inquiets. Mais j'ai fait beaucoup de déni. Ce que ma fille m'a dit, parce que je l'ai interviewée pour ce film-là, « Maman, tu n'écoutais pas ce qu'on te disait. » Mais non, j'écoutais pas, puis je ne pouvais pas et je ne voulais pas écouter ce qu'il me disait. Mon père m'a déjà dit, parce que je partais souvent en Afghanistan, « Tu sais, tant la cruche va à l'eau qu'elle finit par se briser. » Ben, j'étais fâchée contre mon père. Je voulais pas qu'il me dise ça.
Mais pourtant, c'est raisonnable comme position. Là, pour nous qui sommes de simples mortels puis qu'on va pas à l'étranger pour couvrir des conflits comme ça, je le comprends, votre père. Je comprends votre fille Sophie. Là.
Oui. Ils étaient fâchés contre moi. Mais moi, je voulais pas écouter ça. Parce que déjà, j'avais à me gérer moi-même.
Ouais.
Alors, j'avais pas le temps non plus de bercer les inquiétudes de mes proches. J'étais... C'est pour ça que je pense des gens qui font le métier que j'ai fait sont un peu des égoïstes. Là. Ils sont dans leur bulle, ils pensent qu'à eux, leur deadline, la pression, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille là. Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Comment ma sécurité, est-ce que je vais être capable de passer à travers? Donc, on est tellement préoccupé par soi qu'on n'a pas le temps de penser aux proches qu'on laisse en arrière.
Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de suivre ces conflits-là à travers les mots des autres, à travers les images des autres? Avez-vous envie de repartir malgré la retraite?
Ah oui, ça c'est sûr. Le terrain me manque. Le terrain me manque beaucoup, mais la pression et le stress ne me manquent pas du tout. Je pense que j'ai eu trop de pression, trop de stress. Quand j'ai pris ma retraite à 64 ans, là, j'avais donné. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, mon corps s'est révolté, j'ai eu des hernies discales, je n'étais pas capable de me rendre au coin de la rue pour acheter une pinte de lait.
OK, la machine se vengeait.
Oui. Mon corps s'est vengé. Hey, le salaud, hein? Moi, je pensais que j'avais le contrôle, mais non, pas du tout. Il s'est vengé. Puis là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Donc, j'ai arrêté. Avec beaucoup de nostalgie, mais je me suis dit, bon, il est temps que j'accroche mes patins. Mm-hmm.
Sentez-vous que le métier que vous pratiquiez est en train de disparaître dans les médias québécois? On coupe, on coupe, on coupe. Puis en école de journaliste, on nous disait le mort au coin de la rue est plus important pour le lecteur que 1000 morts à l'étranger.
Ben ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les 1000 morts à l'étranger, les gens sont très intéressés. L'actualité internationale intéresse beaucoup plus les gens qu'on croit.
On le sous-estime, ça?
Oui. Complètement, totalement. Il y a vraiment un intérêt pour... parce que là, maintenant, tout est connecté. On voit tout, là. Hong Kong, tous les gens qui sont en train de manifester, de se révolter. On est fascinés.
Au Chili,
regarde ça.
On voit ça.
Oui, en Irak, bon. Mais en même temps, oui, vous avez raison, parce que les médias vivent une crise épouvantable et l'actualité internationale, ça coûte cher. Donc, on a tendance à couper le 10 ou 15 000 $ que ça va coûter pour envoyer un reporter à l'autre bout du monde et garder cet argent-là pour parce qu'on a besoin de tout, de chaque sou. Les journaux ont besoin de chaque sou et on a de plus en plus des agences, des agences de presse. Mais il faut que les Québécois, il faut que les journalistes continuent à aller à l'étranger. Mais je comprends que ça coûte cher puis qu'il y a des dilemmes dans les salles de rédaction.
Il y a des gens qui sont très critiques à l'égard des demandes d'aide financière des médias et tout, là, puis qui vont dire justement que ces agences de presse-là, leur couverture sur le terrain, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'envoyer des Québécois dans ces zones internationales-là. Vous croyez le contraire, en fait?
Oui, moi, je crois totalement et complètement le contraire. Je pense que les agences de presse font un travail remarquable, mais ils synthétisent. Il y a pas...
C'est un plan d'ensemble.
Oui. Comme quand j'étais au Rwanda, quand j'ai vu à Rukara, dans le village, tous les gens qui étaient alignés, j'ai vu qu'il y avait un plan d'extermination. Donc, de le voir, de le décrire, de décrire les mouches, il peut y avoir aussi un point de vue québécois. T'sais. Comment les soldats canadiens en Afghanistan se débrouillent? Est-ce qu'ils font du bon travail? Est-ce qu'ils sont bien équipés? Tout ça, ça c'est les agences de presse ne feront pas ce travail-là. Alors, je pense que c'est essentiel.
Vous avez déjà deux romans derrière la cravate. Maintenant que vous avez revisité vos souvenirs de reporter, quels sont vos prochains projets, là?
Un troisième roman. Je travaille là-dessus. Je suis sur la recherche de ce troisième roman-là qui va être complètement autre chose. Donc, il me demande quand même pas mal de travail et de recherche. Alors, la journaliste, c'est jamais loin, évidemment. Je vais aller sur le terrain, je vais voir. Mais contrairement au journal, au lieu de revenir et de feuilleter mes calepins et de rendre compte de la réalité, ben là, je prends un recul par rapport à la recherche que j'ai faite. Et là, je crée mon univers. Mais toujours sur une toile de fond crédible, là, qui tient la route.
Ça va nous faire plaisir de vous inviter à ce moment-là, dès que la parution sera faite. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio aujourd'hui. Partir pour raconter de Michel Ouimet, c'est disponible aux éditions Boréal. Vous pouvez la rencontrer ce soir lors d'une causerie. C'est à la librairie La Liberté sur la route de l'église à compter de 19h.